Sacrifice et labeur, la torture, les pleurs, c'est le prix qu'ils ont payé afin de pouvoir l'annoncer. Et ils l'ont fait dans la joie, comme nous l'a dit Pierre ce matin, pour la plupart. Ils l'ont fait dans la joie comme il y avait de la joie. Je suis pas allé à la cérémonie de la mort de Blandine, mais j'étais au cimetière. Et puis c'était très long d'aller jusqu'au caveau. Et puis en chemin, on discutait les uns avec les autres, des gens de... Pour la plupart, des gens du Congo, mais des gens de Burundi, des gens du Cameroun, des couples mixtes, toute la communauté était là. Et je suis passé devant un arbre extraordinaire. C'était un cerisier du Japon qui était blanc, mais blanc. Généralement, ils sont roses, ces cerisiers du Japon. Là, il était blanc, il était magnifique. Et il y avait un monsieur qui le photographiait. Et puis, on a eu un partage ensemble aussi autour de cet arbre, parce que moi aussi, je le photographiais, tellement je le trouvais surprenant. C'est un arbre qui fait partie de ce parc qui a été vendu à la communauté, enfin, qui a été donné par la famille Vente de Costenoble, apparemment, lilloise, qui était un parc qui leur appartenait, et ils ont voulu que ce soit un cimetière, donc c'est le cimetière de l'Est. Et je ne savais pas cette histoire, mais le parc est vraiment magnifique, il y a des arbres majestueux, immenses, qui sont là. Et cette famille a voulu que cet endroit soit un endroit où on puisse se balader et se rappeler de ceux qui sont partis. En tout cas, il y avait quelque chose de, pas de joyeux, mais quelque chose d'une profonde assurance dans cet enterrement qui a dû toucher les uns et les autres, qui m'a touché moi personnellement. Et j'espère que nous serons de ceux qui, lorsqu'on nous offrira un citron, on pourra le transformer en citronnade. Alors ce matin, je voudrais qu'on médite autour de deux textes. L'un se trouve dans les évangiles et l'autre se trouve dans le livre de Samuel. Et vous rappelez de cette belle histoire. En ce jour-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. » Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Alors, si nous comprenons bien le texte, il s'agit du prophète, du grand prophète Samuel, qui finalement se trompe sur l'élection du roi. Car il s'agit, on est en temps d'élection, de l'élection d'un roi. Et évidemment, il va voir le premier qui apparaît, qui est un type de forte taille, qui est en plus l'aîné. Donc celui qui devra hériter l'Ourdainès, enfin il avait tout pour lui, cet homme. Et en plus, il s'appelait Eliav. Et Eliav vient de deux mots hébreux, El, qui veut dire Dieu, et Av, qui veut dire le Père. Donc, quelque part, il portait lui-même le nom d'un dirigeant, de quelqu'un qui pourrait asseoir une paternité, une autorité qui venait de Dieu, Eliav. Mais, comme le dit le texte que nous étudions, Dieu avait un autre projet. Et alors, Jessé, de Bethléem, vous savez que Bethléem, c'est aussi la ville où naquit Jésus, donc c'est pas anodin, passe en revue ses 7 fils en disant, voilà, enfin, on va commencer par Eliab, et ensuite, il ne va pas citer d'ailleurs le nom des suivants, mais Samuel dit non, c'est pas lui, est-ce qu'il ne reste pas encore un fils? Et il lui reste encore un fils, qui est berger. Et il porte déjà, quelque part dans sa fonction, la responsabilité d'être berger. Et vous savez que le roi David, ce sera la descendance, Jésus sera de cette descendance-là. Ça passera par ce lignage-là du roi David. Dieu a choisi pour David, pour garder son troupeau, qui était à ce moment-là le peuple d'Israël. Et le choix de Dieu s'est toujours porté vers le plus petit. Et Paul dit en Corinthiens, « Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort, car sa puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et là encore, Dieu choisit le huitième. Et le huitième, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, ce chiffre 8. Vous savez que la plénitude de Dieu, c'est le chiffre 7, mais le chiffre 8, c'est après 7. Donc on change du tout au tout quand on arrive à 8. Et vous savez que notre Seigneur est ressuscité finalement le 8e jour. Puisqu'il y avait eu le Shabbat, qui était le 7e jour, et il vient juste après. Donc c'est le 8e jour, c'est aussi le premier jour de la semaine. Mais c'est le 8e jour, ça vient juste après 7. 7, 8. Et David est le 8e. Je me suis posé la question s'il y avait certainement une relation avec ces chiffres qui sont importants dans la foi juive. Hein, puisque vous savez que chaque lettre hébraïque correspond aussi à un chiffre. Et les juifs aiment bien jouer avec les lettres et les chiffres. Et ils obtiennent parfois des choses tout à fait étonnantes. En tout cas, le verset qui est très important, c'est que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde le cœur. Et je me suis posé la question si finalement Saint-Exupéry n'avait pas été inspiré de cette histoire lorsque dans Le Petit Prince, il dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, dit le Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport aux chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et c'est curieux, et nous le verrons dans le texte de l'Évangile, qui est ce texte sur l'aveugle né, que Dieu chamboule toujours les choses. Il édicte des lois, et puis il passe au-dessus de ces lois. Il parle par exemple du droit d'aînesse, et là vous voyez que c'est le huitième de la famille qui finalement deviendra roi. Il parle du droit d'aînesse, normalement c'est Ismaël qui aurait dû hériter le droit d'aînesse, non c'est Isaac, c'est le deuxième. Jacob et Ésaü, pareil, Ésaü né le premier, c'est l'aîné, et c'est Jacob qui hériterait de la promesse. Comme si Dieu jouait un petit peu avec nous, en disant, voilà, je vous donne des ordonnances qu'il faut suivre, mais moi, je suis au-dessus des lois. Et moi, si j'ai décidé, Dieu, de faire autrement, je le fais autrement. Et quelque part, Dieu nous... Et Jésus le fera dans son enseignement, il va nous chambouler. Et on le verra dans le texte, dans ce texte que nous allons lire maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Et le contexte est assez particulier parce que juste avant, dans le chapitre 8, Jésus dit des choses absolument incroyables aux pharisiens. Jésus dit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu, et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais et garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Sur quoi les Juifs lui dirent : vous n'avez pas encore 50 ans et vous avez vu Abraham ? Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Là, il y a une lapidation. Les gens, ils sont furieux de ce que Jésus vient de dire. Ils prennent des pierres. Jésus se dérobe et sortit du temple. Et puis, on arrive sur le texte que nous allons lire. Alors, vous imaginez un petit peu Jésus qui est rabroué. On lui jette des pierres. Il se dérobe. Et en passant, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Rabbi, lui demandèrent ses disciples, qui a péché ? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ni lui n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut tant qu'il fait jour que nous exécutions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec de la salive et lui enduisit les yeux avec cette boue. Puis il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Mot qui signifie envoyé, nous dit Jean. Il le précise. Il s'en alla donc, se lava et s'en retourna voyant. Alors les voisins et ceux qui le voyaient auparavant, car il était mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, c'est pas, non pas, mais il lui ressemble. Lui disait, c'est moi. Et lui dire donc, comment donc se sont ouverts tes yeux ? Ça vous fait penser à quoi, ça ? Quelque part, quand on étudie le martyr, on est arrivé à la résurrection. Et lorsque le Christ ressuscite, eh bien, on le reconnaît pas. Marie ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier. Mais vous imaginez quelqu'un qui a toujours été dans l'handicap de ne pas voir. Et d'un seul coup, il se met à voir. Vous allez vous demander, mais c'est pas lui. Il a pas le même comportement. Il marche pas comme d'habitude. Il ne regardait pas avant. Ses yeux étaient fermés. Et d'un seul coup, on va changer. Imaginez Matthias, complètement restauré. On le reconnaîtrait pas. C'est pas Matthias. C'est pas le Matthias qu'on a connu. Il est transformé. Et quelque part, on aura cette sensation-là, je pense, à la résurrection, où nous serons complètement restaurés. Quand bien même on est bien maintenant, on sera encore plus restaurés et on sera reconnaissable, mais on se posera des questions. Est-ce bien lui ? Est-ce que c'est elle ? Et ça m'a fait du bien de lire ça et de voir ces gens qui, ne serait-ce que pour... Par rapport à la vue, ça peut complètement transformer un être. Il peut être complètement différent. Au point où ses proches se disent, mais c'est pas lui, c'est pas possible. Il lui dit donc, comment donc se sont ouverts tes yeux ? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a enduit mes yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est-il ? Et il dit, je ne sais pas. Alors, juste une petite aparté sur Siloé, qui veut dire envoyé. Vous vous rappelez aussi de cette histoire où, là, c'est pareil, les disciples demandent à Jésus, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Comment ça se fait qu'il est né aveugle? Jésus répond pas à cette question. Mais il fait une démonstration de puissance. Et puis on s'est rappelé, vendredi soir, on priait ensemble, et cette histoire où Jésus dit, et ça concerne aussi Siloé, pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas ça nous rappelle un peu ce texte. Or, en ce même temps, quelques-uns vinrent lui rapporter ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur victime. Prenant la parole, il leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous que la dette fut plus grande que celle de tous les autres hommes qui habitent Jérusalem ? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Donc Jésus nous dit que les épreuves que nous on va traverser dans cette vie, elles sont pas, c'est pas une punition que Jésus nous inflige, que Dieu nous inflige, c'est pas une punition que Dieu inflige à Matthias, c'est pas une punition pour Marc-Henri de perdre sa femme et pour David et Esther de perdre leur maman. Ça fait partie de la vie, de la dureté de la vie. Et malgré cette dureté, nous a encouragé Pierre ce matin, eh bien, il faut vivre dans la joie. Moi, je voyais Matthias, Jean-Simon, qui nous avait encouragé à rester debout pendant deux cantiques et une prière, et Matthias qui résistait, qui était debout, qui était claqué. Et moi, j'étais admiratif de le voir debout, dire « Moi aussi, je fais partie de cette église, moi aussi, je suis debout pour chanter ces cantiques, malgré le fait que je suis défoncé par mes médicaments. » Mais nous savons que Matthias sera restauré pleinement et qu'on aura bien du mal à reconnaître, mais on reconnaîtra quand même. Alors, on amène aux pharisiens celui qui était aveugle. Or, c'était Shabbat, le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour donc, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue et il leur dit il m'a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le Shabbat. D'autres disaient, comment un pécheur pourrait-il faire de tels miracles? Et ils étaient en désaccord. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle, et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les Juifs pourtant ne crurent pas de lui, qu'il eût été aveugle et qu'il lui recouvrait la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il que maintenant il voit ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est lui notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il se fait que maintenant il voit? Nous ne le savons pas. » Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils craignaient les Juifs. Déjà, en effet, les Juifs étaient convenus que quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ serait exclu des synagogues. C'est pourquoi ses parents lui dirent, il a l'âge, interrogez-le. Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle. Et lui dire, rends gloire à Dieu, nous savons-nous que cet homme est un pécheur? Sur quoi il répondit, si c'est un pécheur, je sais seulement que j'étais aveugle et qu'à présent je vois. Alors ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Est-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, mais nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. Et l'homme candide aurait dit: voilà bien ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a ouï dire que personne n'ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas venu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché, et tu nous fais la leçon. Et ils le chassèrent. C'est assez curieux ce miracle de Jésus, parce que c'est un miracle que Jésus fait en deux temps. Il prend d'abord, on est le jour du Shabbat, Shabbat on a le droit de rien faire, et là quand je vous disais que Dieu contourne toujours les choses et parfois nous donne des ordonnances, et lui-même décide de ne pas suivre ces ordonnances. David était un homme de Dieu, et vous savez qu'il a été même manger les pains de proposition dans le temple alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais le roi David l'a fait. C'était interdit, mais il l'a fait. Et Jésus se permet, lui, le jour de Shabbat, de prendre de la boue et de le mettre sur ses yeux. Et il demande à cet homme, donc, qui doit être aveugle, encore plus aveugle, parce qu'il imagine, il a un placard de boue sur les yeux. Et puis, il demande d'aller dans la piscine de Siloé pour se laver. Et cet homme, bien évidemment, n'était pas handicapé par la boue, parce qu'il savait marcher dans le noir, puisqu'il était dans le noir en permanence. Et il se lave les yeux et recouvre la vue. Et il se lave les yeux dans l'envoyé. Il se lave dans les yeux dans l'envoyé du Père. Il se lave les yeux en Jésus-Christ. Il se lave les yeux comme nous nous lavons lorsque nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême et que nous nous ressuscitons avec lui. Et là, on voit combien Jésus veut montrer que la loi, elle est bonne aux Juifs. Mais n'adorez pas la loi. La loi n'est pas un sujet d'adoration. Seul Dieu est un sujet d'adoration. La loi n'est là que pour nous aider à nous approcher de Dieu. Mais si la loi devient une fin en soi, on passe à côté de l'essentiel. J'ai discuté avec une des secrétaires avec qui je travaille. Elle est musulmane. Et je lui ai fait une prise de sang. Et puis c'est quelqu'un que je suivais un petit peu pour une anémie, mais qui était quand même assez cogné. Et puis à un moment donné, je vais la voir et je lui dis: écoute, là, il y a Ramadan qui commence, mais ton hémoglobine est à 7, c'est pas beaucoup du tout. Pour une normale qui est à 15, vous imaginez, à la moitié moins d'hémoglobine. Et elle me dit: je ferai quand même le Ramadan. Alors, je lui dis, mais tu sais que tu peux aller voir ton imam, tu lui expliques les choses, et puis il te dira que tu n'es pas obligé de faire le Ramadan maintenant, parce qu'il faut que tu recouvres ton taux d'hémoglobine, il faut que tu le remontes. Et elle me dit: j'irai pas voir l'imam, parce que je sais ce qu'il va me dire. Alors, je lui dis, je vais pas vous citer son nom, si Dieu vient te voir cette nuit, il te dit, ne fais pas Ramadan, qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, je le fais quand même. Et voilà. Et ça, et quelque part, nous, on aurait cette tendance à être comme ça aussi. À appliquer la loi. C'est écrit, on le fait. Quand bien même, parce qu'on a une fascination pour cette loi. Et Jésus nous dit, le Shabbat, il vous sert à vous. C'est pas vous qui devez servir Shabbat. C'est Shabbat qui est à votre service. Où on s'arrête, où on passe du temps en famille, où on ne travaille pas. Mais soyez, respectez l'esprit de Shabbat, mais soyez pas à la lettre. Et Jésus remet en question les choses. Il va comme il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et à travers tous ses enseignements, il accomplit la loi que Dieu a donnée à Moïse. Jésus apprit qu'il avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Et à ce moment-là, évidemment, il voit Jésus. Hein, il n'a pas vu lorsqu'il appliquait de la boue sur ses yeux, mais à ce moment-là, il voit Jésus. « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois. Celui qui te parle, c'est lui. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » et il se prosterna devant lui. Alors Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Entendant cela, les pharisiens qui étaient avec lui lui dirent, « Est-ce que nous aussi, nous sommes des aveugles ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais comme vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » C'est assez curieux cette phrase de Jésus qui dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et Paul nous dira après dans l'Épître aux Romains que c'est grâce à cela que le monde des païens s'est converti. C'est comme ça qu'il y a eu cette annonce de l'Évangile dans tout le monde et qu'une partie d'Israël n'a absolument fermé les yeux et est devenue complètement aveugle. Et encore maintenant, curieusement, lorsqu'on parle de Jésus, il y a une réticence terrible à accepter ce Messie qui est venu dans le monde. Alors pour conclure, Dieu veut nous surprendre. Et il faut laisser être surpris par Dieu. C'est quelqu'un de tellement, tellement, tellement original. Je me rappelle d'un patron de médecine avec qui on parlait de la foi. Et que je lui ai dit, et c'est peut-être ce qui l'a marqué le plus, que Dieu était le plus grand des artistes. Quelqu'un de hyper, hyper original. On sera surpris lorsque nous le verrons. Parfois, on le voit à travers Jésus, qui était un grand original, probablement quelqu'un de très joyeux, de très heureux comme homme, malgré ses... Quelqu'un avec qui on devait passer un bon temps, quelqu'un qui aimait bien manger avec les gens de pauvre vie, mais quelqu'un d'agréable. Et c'est cette notion-là qu'on a de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui est venu sur Terre. C'est Dieu qui est venu nous parler. S'il dit... Je suis comme ça, moi, Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, le Maître de l'univers. Je suis comme ça. Je suis comme Jésus. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et Jésus nous a surpris. Et il nous a surpris par sa vie, par son sacrifice. Il a surpris aussi ceux qui étaient les religieux de son époque, qui auraient dû discerner en lui le Messie et qu'ils ne l'ont pas fait. Dieu édicte des lois, mais ne le suit pas forcément. Il est au-dessus des lois, comme je l'ai dit. J'ai parlé du droit d'aînesse. J'ai parlé de la promesse que Dieu fait à des femmes qui sont stériles. J'ai parlé aussi du choix du roi David, qui était le huitième enfant, qui était au-delà de ce que pouvait penser Jessé. Mais c'est pas possible que mon petit berger, là, ça soit lui qui soit le futur roi d'Israël. La religion n'est pas une fin en soi, hein, c'est quelque chose qui doit nous aider à nous relier à Dieu. Comme dirait Max Donner, Dieu est plus grand que la Bible, bien plus grand que la Bible. Et l'évangile de Jean nous dit, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les miracles de Jésus et la terre entière ne suffirait pas pour les contenir tous, nous dit le texte, mais c'est suffisant pour croire. Et la Bible, c'est ça, c'est suffisant pour que nous puissions mettre notre foi en elle. Mais Dieu est bien plus grand que ça. Que le Seigneur nous aide à voir au-delà des apparences et simplement nous rappeler de cette phrase de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour nos yeux. Amen.